Nous sommes rendus au chapitre 5. Chapitre 5, et les versets 13, 14 et 15 ce soir. Alors, nous lisons. Ensuite, on se courbera dans les prières quelques secondes. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Galates 5, 13, 15. Seigneur, encore une fois, on est devant toi, tous réunis, tes enfants, quelques-uns d'entre eux. Et encore une fois, Seigneur, on vient devant ton trône de grâce pour te demander de nous bénir, chacun d'entre nous. Tu es le bon berger qui prend soin de chacune de tes brebis. Seigneur, chacun d'entre nous, nous avons nos combats, nos caractères, les vies dans lesquelles nous sommes, et les épreuves, les difficultés. Toutes ces choses dans lesquelles nous sommes, Seigneur, et au travers desquelles tu nous parles, et tu veux nous faire grandir. Père, encore une fois, on prend ces quelques instants pour partager autour de ces paroles quelques versets. Et nous te demandons, par le Saint-Esprit, d'aller là, dans ce lieu secret, en chacun de nous, toucher ces cordes sensibles que tu as à toucher, de nous réconforter, de nous faire du bien, de nous sécuriser, de nous édifier aussi, et de nous fortifier. Père, merci de ta grande générosité. Tu es le Dieu qui ne punit pas selon nos péchés et qui ne nous châtie pas selon nos iniquités. Tu es un Dieu de patience et de bonté. Tu chéris tes enfants et tu les bénis. Père, merci. C'est dans cette attitude d'esprit qu'on se présente devant toi et que nous nous attendons, encore une fois, à de nombreuses bénédictions venant de ta part. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ce soir, on va regarder le verset 13 en trois parties, hein, A, B et C. Et puis, ensuite, on regardera le verset 14, qui est, je dirais, le principal, le plus important. Parce que, comme le texte le dit au verset 14, « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Par conséquent, c'est important de la comprendre parce que en la comprenant bien, cette parole, le Maître nous dit qu'on peut tout accomplir la loi et les prophètes. C'est l'enseignement qu'on retrouve dans les Évangiles et que l'apôtre Paul reprend. Alors, j'ai préparé un petit tableau au fur et à mesure que je méditais sur les versets que nous avons ce soir, et en lisant des commentaires et en allant dans toutes sortes de textes, on se rappelle que l'apôtre Paul, il a envoyé une lettre aux Galates. Et les Galates étaient devenus des chrétiens par la prédication de Paul, et par la suite, des loups ravisseurs étaient venus et avaient enseigné d'autres choses, disant que vous avez reçu de bonnes choses, mais il vous manque certaines choses. Hein? Et vous rappelez, on a vu ces choses dans les derniers mois qui ont passé. Et puis, il y a aussi ceux qui n'ont pas reçu la parole de Dieu. Alors, tout en méditant, en étudiant, il m'est venu dans la tête comme ça un tableau avec trois lignes bien coupées. Alors, on avait Moïse d'un côté, hein, qui avec les judaïsants, hein, vous savez, ceux qui venaient et qui détestait Paul et qui voulait montrer aux autres, disant que Paul est un faux prophète. Et on a les chrétiens, ça c'est nous, ça. parce qu'on découle de Christ. Et on a la colonne des hommes, les hommes irrégénérés, les hommes qui se plaisent qu'à eux-mêmes. Alors, quand on regarde le tableau rapidement, on se rend compte que les judaïsants qui se disaient découlés de Moïse et de la loi de Moïse et de Dieu, et ils n'avaient que la loi sur les lèvres, et ils parlaient des efforts de l'homme pour acquérir et faire ces choses et pour devenir juste. Hein, vous vous rappelez de ces choses? Alors, c'est selon la loi de Moïse pour chacun, par les œuvres, et ils sont esclaves de cette loi, c'est la circoncision. Ils sont obligés par la loi de faire des choses, et sans cesse. Et il y a toujours, en arrière de ça, il y a la peur d'une punition, et aussi il y a l'orgueil de faire plus. C'est des motifs qu'on voit ici pour ceux qui allaient de l'avant avec la loi et la circoncision. Alors, les judaïsants, eux, c'était important pour eux. Il y avait une punition et il y avait l'orgueil. Hein? Les scribes et pharisiens hypocrites ayaient l'esprit. Et la loi exige la purification, mais ne peut la procurer. Et là, on met ça à côté, en parallèle avec Christ. Nous, on découle de Christ. Et c'est la loi morale de Dieu et de Christ. Hein? Et la loi de Dieu de l'Ancien Testament se retrouve dans la loi de Christ, parce que c'est le verset 14 qu'on vient de voir. Si on aime notre prochain comme nous-mêmes, on accomplit la loi et les prophètes. Alors, on n'a plus besoin de la loi sacrificielle, on n'a plus besoin de la circoncision, on n'a plus besoin de la tradition juive et du peuple juif, hein, et vous savez. Alors, on est des chrétiens, parce qu'on découle de Christ, et nous, c'est la liberté. Et on va parler de la liberté, parce que le texte nous parle de liberté. Et c'est là où est-ce qu'il y a le bas blesse et une pierre d'échappement à cause qu'on est libre. Et beaucoup ont mal interprété cette liberté. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit. Alors, vous voyez les efforts des hommes, la puissance du Saint-Esprit. Et là, si on s'en va vers les hommes, bien, les hommes irrégénérés sont sans contrainte ou à peu près, si vous voulez, dépendamment de chacun d'eux. Et on continue avec la lignée de Christ. Alors, nous, c'est selon la loi de Christ pour chacun. C'est chacun personnel. Le Seigneur nous parle et on applique les paroles de Christ dans notre vie, à tous les jours, dans tous les contextes de notre vie. C'est par la foi, contrairement aux œuvres. Les hommes n'y ont rien. On est des esclaves, mais libérés, hein, de Christ, alors qu'ils sont encore esclaves de la loi. Comparativement à un homme normal et régénéré, qui, lui, est encore un esclave du péché condamné. Alors, eux, ils mettaient l'effort de la discussion sur la circoncision, alors que nous, c'est la croix. Les hommes, l'évolution, le hasard. La loi oblige. Tu es obligé par la loi, alors que la loi de Christ encourage l'agapo. Et l'agapo, vous savez, là, c'est, hein, le mot amour que le Seigneur Jésus a utilisé dans l'Évangile, et c'est ce qui est, c'est le mot, c'est cet amour qui est dans « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et c'est l'amour que Christ remplit dans nos cœurs qui est le motif de notre comportement chrétien. Et quand on dit chrétien, ça veut dire « Christ-like », comme le Seigneur Jésus-Christ, pas chrétien bonhomme malin comme nous autres, comprenez là? Je suis sauvé par la grâce, je suis dans mon lésible-boy du salut, tout va bien pour le meilleur des mondes. C'est pas ça. Quand on parle d'un chrétien, l'amour, motif du comportement chrétien, c'est qu'on ressemble, on vise, on regarde Christ et on doit essayer de lui ressembler le plus dans tous les aspects de notre vie. Et cette foi que nous avons en Christ nous procure la purification et la puissance pour vivre libre du péché. Alors, je trouvais intéressant, vous voyez, de voir l'enseignement de ces versets-là en trois colonnes. Les judaïsants, les vrais chrétiens comme nous, et puis les hommes irrégénérés. Alors, le verset 13 où nous lisons, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. » Alors, j'ai trouvé intéressant qu'on s'intéresse un petit peu à la liberté. Alors, on va aller voir Exode 21, 2, 6, s'il vous plaît. Exode 21, 2, 6. 2 à 6. Exode 21, 2 à 6. Alors, ici, on parle d'esclaves. Et ce que je veux vous... Le point que je veux faire, je veux montrer qu'il y en a qui pensent qu'ils sont libres, mais sont esclaves. Et il y en a qui sont réellement esclaves, mais sont libres. Alors, dans le fond, c'est quoi la liberté dont parle le Seigneur? Quelle est la vraie liberté? On en a une bonne idée. Et je ne pense pas vous apprendre rien, mais quand même, c'est intéressant d'aller voir ce que la parole nous montre. Alors, 21, 2 à 6. Et là, Moïse parle, il dit, « Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. » S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit, « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu. Et il fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Et c'est intéressant de voir que l'esclave, bien qu'il pouvait avoir la liberté, il ne la voulait pas, il ne la désirait pas. Il voulait rester l'esclave de son maître, et il portait un anneau à son oreille pour le démontrer tout le long de sa vie. Et pourquoi l'esclave faisait ça? Parce qu'on le voit, j'aime mon maître. Pourquoi est-ce qu'il aime son maître? Parce que son maître, il est bon. Être l'esclave d'un bon maître, en fait, c'est être libre. Se soumettre, tu es un esclave, tu es une propriété, et tu te soumets à ce maître, parce que l'esclave, c'est ce qu'il doit faire. Il doit écouter le maître, et il doit accomplir tout ce que le maître dit. Mais l'esclave désire rester l'esclave de ce maître parce que c'est un bon maître. Et la liberté ne vaut pas son pesant d'or comparativement à ce maître. Parce que être l'esclave de ce maître, c'est plus que la liberté. C'est ce que le texte veut nous montrer. On va aller voir un autre texte, Luc 15, l'Évangile de Luc. On parle de liberté. Luc 15, versets 11 à 19. Et c'est le fils perdu. Alors, on ne traite pas toute la parabole que le Seigneur a donnée, mais on va regarder une partie de l'enseignement, de 11 à 19. Alors, le Seigneur y va et il dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père! » « Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Et là, je vous rappelle, comme on vient de le lire, que c'est un fils, et en plus, un fils d'homme riche. Il est loin d'être un esclave. Alors, il est, pour ainsi dire, dans la maison de son père a des serviteurs et des esclaves. Parce que c'est un homme riche, et lui-même jouit d'être supérieur, si vous voulez, à ses esclaves, qui sont aux serviteurs qui sont dans la maison de son père. Alors lui, il décide de s'en aller, homme libre qu'il est, il décide de s'en aller, et il part pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service de l'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même. Et c'est important, ça. Étant rentré en soi-même, en lui-même. Il dit, « Combien d'ouvriers, de serviteurs chez mon père, hein, ils ne sont pas libres, ont du pain en abondance, et moi ici, qui suis son fils libre, je meurs de faim. Je me lèverai, je rêverai mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Parce que ma liberté, en tant qu'homme libre, m'a amené plus de peine que si j'avais été un esclave ou un ouvrier. Parce que je reconnais que tu es un bon maître et que ceux qui sont dans ta maison. Alors, voyez-vous, l'image qu'on voit de serviteur, dans le fond, c'est relatif. C'est très relatif d'être libre et d'être esclave. Et finalement, 1 Corinthiens 9, 19, où l'apôtre Paul, en écrivant aux Corinthiens, leur rappelle certaines choses à propos de la liberté. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 19. Il leur dit, « Car, bien que je sois libre, l'apôtre Paul qui dit, « Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. » Autrement dit, Paul, il s'est rendu esclave de tous. Et pourtant, Paul, lui-même, n'était pas un esclave. Lui-même, dans les autres enseignements, va dire qu'il est lui-même, moi, Paul, hein, esclave, doulos du maître, le Seigneur Jésus-Christ. Mais pourtant, il est libre. Bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. Et là, on comprend pourquoi, en sorte, pourquoi il le fait de même. Alors, voyez-vous, lorsqu'on parle de liberté, alors la liberté, c'est relatif. Dans le fond, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. On n'est pas libre d'arrêter de manger. On n'est pas libre de ne pas se laver. On n'est pas libre. Comprenez-vous? La liberté elle-même a des balises pour empêcher de l'extérieur de venir brimer cette liberté. Mais la liberté elle-même a besoin de balises pour qu'on puisse appeler cette état d'âme, si vous voulez, ou cet état de fait, liberté. On ne peut pas... Ceux qui pensent que liberté, c'est tu peux faire tout ce que tu veux, de la façon que tu le veux et quand tu le veux, c'est pas de la, ça, c'est de l'anarchie. Ce n'est pas de la liberté. La liberté est encadrée. Elle a des balises. Alors, il nous dit, Paul, il dit aux Galates ici, et il nous le dit à nous aussi, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Christ, il nous a affranchis. » Hein? On était esclaves du péché, et Christ nous a affranchis. Maintenant, on est des hommes et des femmes libres du péché. Le péché n'a plus préséance sur nous. On est capable maintenant de dire non au péché. Avant que le Seigneur vienne dans notre vie, on n'était même pas capable de dire non. On était toujours dedans. On se vautrait dedans, puis on ne le savait même pas. Quand même que ce qui nous arrêtait parfois de faire du péché, c'était quoi? On était malade, on était trop fatigué, on n'avait pas d'argent, ou peu importe, d'autres raisons. Mais ce n'est pas parce qu'on n'avait pas envie de pécher, comprenez? On était comme des truies pas lavées, ou lavées. Mais on aimait ça, aller dans le bourbier, puis se vautrer dans le péché, parce qu'on était irrégénérés. Alors, Christ nous a libérés du péché. Maintenant, on est capable de dire non. On est capable de vivre pour Christ. On est capable de décider. Le péché n'a plus cette emprise. L'ennemi est capable de nous faire des choses encore par l'extérieur, mais on est avec Christ, on est capable de dire non. On est capable de rester libre. Et il continue au verset 13b, « Seulement cette liberté que Christ vous a acquise à grand prix. Ne faites pas de cette liberté un prétexte ou une base d'opération, si vous voulez, un prétexte de vivre selon la chair. » Parce que le mot « prétexte » dans l'original que Paul a écrit, c'était l'image qu'il donne, c'est « tu te fais une base d'opération, tu acquiers une partie de terrain, mettons, un ennemi arrive sur le bord de la plage, il réussit à acquérir un morceau de terrain, et puis là, il met ses effectifs-là, et puis à partir de là, il va continuer à acquérir d'autres parties. » Alors, c'est le sens du mot « prétexte ». Alors, ne faites pas de cette liberté. Christ nous a accordé une liberté. On est affranchi maintenant. Alors, que cette liberté ne devienne pas, si vous voulez, un prétexte, une base pour vivre selon la chair. Et vivre selon la chair, vous en avez une bonne idée. On est encore des pécheurs, hein? On sait de quoi il en retourne quand on parle de la chair, ces appétits de l'âme humaine qui ne sont jamais rassasiés et qui sans cesse se réveillent en nous et qui veut nous amener à faire des choses qu'on ne veut pas. Hein? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On a une bête à l'intérieur qu'on doit tenir endormie. Mais les choses de l'extérieur réveillent ce monstre, cette bête. Et si on ne veille pas à la contrôler, hein, vous savez qu'est-ce qui peut arriver. Alors, 1 Pierre 2,16 nous dit, étant libre, et là c'est Pierre qui parle, il dit, étant libre, sans faire de la liberté, un peu comme Paul le dit, un voile qui couvre la méchanceté, un cover-up. C'est comme si on fait semblant, on se cache, on met un voile, là, on se cache pour pas que on a cette liberté en Christ, puis là, on l'utilise comme un voile pour se cacher, mais pour continuer par en arrière, de faire tout ce que notre chair désire. Et vous savez que, malheureusement, il y a certains enfants de Dieu qui pensent comme ça, qui disent que la grâce a abondé. Et parce que cette grâce a tellement abondé en Christ, il est mort pour les péchés passés, présents et futurs, alors qu'on en fasse 10 ou 100, c'est pas important. Ils sont pardonnés pareil. Puis on est des hommes pécheurs de toute façon. Alors quand même qu'on en fera 25 ou 50, c'est pas grave aux yeux de Dieu. Mais on ne doit pas penser comme ça. C'est grave de penser comme ça et de se laisser aller dans nos appétits charnels, dans nos faiblesses. On doit combattre ces choses. Alors c'est ce que Paul dit ici. Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. 2 Pierre 2, 11, 22. Un petit peu plus loin, 2 Pierre. 2 Pierre 2, 11 à 22. Il dit ici, « Tandis que les gens supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elle le jugement injurieux devant le Seigneur, mais eux, semblables à des brutes, hein, les faux docteurs ou les judaïsants, qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent dans leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie et en faisant bonne chair avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité. J'ai entendu le témoignage d'une dame qui disait, « Moi, je préfère Satan parce que lui, il paye cash. J'aime pas Dieu parce que Dieu, lui, il faut toujours attendre dans 50, 60, 100 ans. C'est vrai ce que je vous dis là. Je préfère Satan parce qu'il paye cash. Si je sers Satan, j'en ai tout de suite du cash. J'ai tout de suite de la gloire. J'ai tout de suite de la réussite. Quand tu sers Dieu, Mais tu as toujours des épreuves, puis il faut que tu attendes. Tes récompenses, tu vas les avoir juste dans l'éternité. C'est vrai ce que je vous dis. J'étais terrassé quand j'ai entendu ce témoignage-là. Mais qui fut repris par Balaam, il a été repris pour sa transgression. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démarche du prophète. Ces gens-là, et là, ils continuent, hein, et ils montrent que, voyez-vous, c'est une illustration de prendre cette liberté et d'en faire un prétexte pour vivre selon la chair. Et ça va très loin. On pourrait même douter si ce sont des frères ou des sœurs dans le Seigneur. Ici, on parle, le texte parle d'inconvertis, mais on a des connaissances et des personnes qui se disent croyants, chrétiens. Le chrétien peut tomber dans des péchés graves et il peut glisser longtemps. On a entendu des témoignages qui nous font pâlir d'enfants de Dieu qui se sont égarés et qui ont cru des fausses doctrines, des choses. On est en droit de se poser plusieurs questions. Mais c'est toujours cette chair qui est insatiable et en relief avec cette liberté. Oui, mais on est libre en Christ. Il nous a affranchis, il nous a sauvés, et maintenant, rien, comme on a entendu ce matin, rien ne peut nous ravir de l'amour de Christ. Alors, comme je disais tout à l'heure, qu'on en ait 25 ou 500, quelle différence ça peut faire? Alors, c'est grave de penser comme ça. Il y a un dernier texte, 1 Colossiens 3, 1-15, qui nous montre encore une fois, Colossiens 3, ce qu'on peut faire, les désirs de la chair. Colossiens 3, 1 à 15. Si donc vous êtes. Et là, Paul, il met le parallèle entre les deux. La liberté en Christ va nous amener à devenir des instruments d'équité, de justice. Et là, il met en relief d'autres qui sont, bien qu'ils soient sauvés, bien qu'ils soient des enfants de Dieu, mais qui sont encore des instruments d'iniquité, de péché. Alors, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et là, il parle à des chrétiens, l'apôtre Paul. La lettre aux Colossiens, c'est à des chrétiens qui écrit ça. Et il dit, c'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. On a été dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, mais vous voyez, il est possible, en raison de cette liberté, parce qu'on comprend mal l'enseignement, eh bien, parce que Paul, en disant aux Galates, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, c'est exactement ce qu'il faisait. C'est exactement ce qui se passait à Galates. Et dans d'autres, à Corinthe, c'était peut-être pire à Corinthe. Alors, c'est ce qui se passait. Cette liberté acquise, offerte en Christ, était devenue un prétexte, une licence, si vous voulez, pour pouvoir pécher sans devenir coupable et sans avoir de jugement, un peu comme on le voyait tantôt dans le tableau. La troisième partie du verset qui dit, mais au lieu de prendre cette liberté et d'en faire un prétexte pour vivre selon la chair, alors au lieu de faire ça, Parce que c'est vrai qu'on est libre. C'est ce qu'il dit, l'apôtre Paul. C'est vrai qu'on est libre. Mais là, il y en a qui prennent la liberté puis qui s'en servent d'une drôle de manière. Puis on ne doit pas faire ça. Puis ceux qui enseignent que ce n'est pas grave, ça n'a pas de sens. C'est pas pour ça qu'on était libre. Christ nous a libérés, nous a affranchis pour qu'on dise non au péché. Et en disant non au péché, par conséquent, on va faire d'autres choses. Et ce d'autres choses qu'on va faire, eh bien, c'est écrit ici, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Et j'ai écrit ici, vous voyez, douloureux pour mon prochain. Les apôtres, quand ils parlent, qui sont les serviteurs du maître, ils prennent le mot doulos, qui veut dire esclave. Et ici, c'est la même racine, douloureux pour mon prochain. Alors, c'est un verbe hein, d'être ça, de s'esclaver, si vous voulez, de se serviteurier, si vous voulez, pour nos frères et sœurs. Comprenez-vous? On prend le mot esclave et on en fait un verbe, mais pour nos frères et pour nos sœurs, le peuple de Dieu. Pourquoi faudrait faire ça? Pourquoi il faudrait faire ça? Parce qu'on a des exemples. Alors, on va aller dans Luc 22, 24. Luc 22. Les textes de ce soir, je les ai, pour moi, ce sont des textes difficiles. En ce sens que je préfère que ce soit le Seigneur qui nous parle. Que ce soit, vous comprenez ce que je veux dire, que plutôt qu'un homme ou des commentaires. Je préfère qu'on aille voir la parole elle-même du Maître et qu'elle nous interpelle à l'égard de ce que Paul a dit à propos de la chair, à propos de la liberté. À propos de commission, on vient de le voir, d'aimer, de se mettre au service de notre prochain, etc. Alors, Luc 22, verset 24, nous lisons. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lesquels d'entre eux devaient être estimés le plus grand. Oh, c'était sérieux. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, c'est ce qu'ils font, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Ça, c'est une thèse de maîtrise. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Et celui qui gouverne comme celui qui sert. Ça, c'est un PhD. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? C'est quoi la réponse? C'est celui qui est à table, hein? Qui est à la table. Dans le contexte, le serviteur est à la table, le maître est à la table et les serviteurs viennent servir le maître. N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, moi, le Seigneur Jésus, Dieu le Fils, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Alors, voyez-vous, quand je dis qu'il y a une thèse de maîtrise ici et un PhD ici, il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, un frère ici a prêché et il parlait de leadership, de bon leadership. Et selon des études scientifiques, on a fait venir un docteur ici à Trois-Rivières pour faire de la formation. C'est notre frère Gilles Poulin qui a assisté à cette formation. Et puis, le docteur, c'est un PhD qui est venu pour les enseigner. Et il disait et il montrait avec une méthode scientifique, il montrait hors de tout doute que les plus grands leaders, dans peu importe le domaine, mais les meilleurs leaderships, les plus grands leaders, c'était les hommes ou les femmes qui s'étaient fait serviteurs pour leurs employés ou pour leur adjoint, etc. Ils montraient que les patrons qui prennent soin de leurs employés, de tous ceux qui les entourent et qui les servent et qui veillent sur eux comme un berger le ferait sur ses brebis. C'est les plus grandes réussites d'entreprise, de compagnie, de comité, de tout ce que vous voudrez. Et c'est l'enseignement qu'on a, nous. C'est l'enseignement du maître qui nous donne. Alors, si tu veux être grand, si tu veux être premier, ce n'est pas compliqué, tu dois devenir un serviteur. Tu dois servir ceux qui t'entourent. Marc 10, 35 à 45, nous avons un beau texte. Marc 10, 35 à 45. Marc 10, ah, c'est le même texte, oui, c'est ça. Alors, c'est le même texte ici qu'on a dans Marc, qu'on vient de voir dans Luc. Alors, où est-ce qu'il se demandait? Parce qu'il dit des mots différents. Venez au verset 42. Jésus les appela et leur dit, Marc 10, 42, Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent. » Alors, les mots sont forts ici. « Et que les grands les dominent. » Alors, qu'il n'en soit pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Alors, les mots sont différents. Si vous voyez jusqu'où le Seigneur va. Parce que c'est ce que le Seigneur, c'est ce qu'il a fait. C'est l'image qu'il nous a donnée. Étant Dieu le Fils, c'est l'image, c'est l'exemple qu'il nous a donné. Et on voit Paul parler du maître dans Philippiens 2, un texte qu'on connaît bien, Philippiens 2, 5 à 8, en parlant de douleo pour mon prochain. Alors, un texte qu'on connaît bien, qui a été même, on en a fait un poème avec la traduction courante, et puis le trio Richard Toupin, je m'en rappelle, dans les années 80, en a fait une chanson. Alors, le Christ dès l'origine. Alors, les paroles ici, 5 à 8. Philippiens 2, 5 à 8. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. » Dieu n'est pas limité à changer de forme, dans le sens que, à l'époque de l'apôtre Paul, et puis même encore aujourd'hui, quelques-uns vont dire que, et vont croire que, c'était pas vraiment Dieu qui était dans la personne du Christ. Hein? Ça pouvait pas être Dieu. Dieu ne pouvait pas naître d'une femme. Et là, il y a toutes sortes d'arguments qui vont amener. Mais ici, il dit bien, existant en forme de Dieu, c'était vraiment Dieu qui était là. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une poire arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même. C'est-à-dire, cette gloire qu'il avait avant, cette gloire que le Christ avait, que Dieu le Fils avait, il ne l'a pas laissé transparaître. Il est venu dans l'humilité et il est venu accomplir cette œuvre d'esclave, de serviteur de la part de l'Éternel. Hein, il s'est mis serviteur, lui qui était sans péché, sans tâche, puis nous qu'on est des pécheurs, des haïsseurs, des haïsseurs, etc. Alors, c'est ce que le texte nous montre. Le Seigneur a fait une œuvre de grande humilité en venant nous servir comme un serviteur, en se dépouillant. Et il est allé, il s'est rendu, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et là, il y a un petit mot qui dit « même jusqu'à la mort de la croix ». Voulant dire que, écoutez, il est allé vraiment loin. Il s'est vraiment humilié, et puis il s'est vraiment dépouillé, et puis il s'est été tout qu'un serviteur. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et ce matin, on a vu le texte de notre adoration ce matin, c'était « Seigneur, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi », tellement que c'était considérable, c'était extrême. Mais pourtant, je suis ton serviteur, je suis ton esclave. Et je vais faire ta volonté et non pas la mienne. Et ça, c'est l'exemple qu'on a là. Alors, quand l'apôtre Paul revient au verset à nos versets hein, de Galates. Retournons dans Galates. Et quand il dit, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres, c'est toutes ces choses qui sont en arrière de ces paroles-là. C'est l'image du Maître dans toutes les paroles qu'on vient de lire. Frères, verset 13, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous. Cette liberté est pour qu'on se rende par amour, hein, par amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi, pourquoi c'est si important? Parce que toute la loi est accomplie dans une seule parole. Ce qu'on vient de voir, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et puis, aux Romains, 13, 8 à 10. Épître aux Romains. La loi royale, Jacques l'appelle la loi royale. Dans Jacques 2, 8, il l'appelle comme ça, la loi royale. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu accomplis la loi royale. Et ici, Paul, il dit... Verset 8 de Romains 13, « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Et ça, c'est le commandement du Maître. « Voici, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » À ceci, tous connaîtront que vraiment, mais vraiment, là, vous n'êtes pas des bouddhistes ou des krishnistes ou des, ce que vous voudrez. Vous êtes vraiment des chrétiens. Parce qu'il y a juste ceux qui découlent de Christ agissent comme ça. Pourquoi? Parce que ça prend la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir faire ça. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas le faire. Il y a juste les vrais chrétiens remplis du Maître qui vont être capables de faire les œuvres du Maître. Malheureusement, il y a beaucoup de ces enfants qui ne sont pas remplis du Maître. Par conséquent, ils ne font pas les œuvres du Maître, même s'ils sont les enfants de Dieu, réellement. Mais pour faire les œuvres du Maître, il faut être rempli du Maître. Et quand on est rempli du Maître, on fait les œuvres du Maître. Et les gens de l'extérieur, quels qu'ils soient, ils se rendent compte qu'on n'est pas pareil, qu'on est différent. Et ils se doutent. Je te garde, je te parierais que c'est un évangéliste. C'est un évangéliste. Je suis sûr que c'est un gars là, qui va dans une assemblée baptiste ou une assemblée, là. Ça, j'ai eu ce témoignage-là souvent. Je le savais. Des personnes qui disent, qui s'exclament comme ça, je le savais que tu étais ça. Ça paraissait. Je savais bien que tu étais bizarre. Je le savais que c'était ça. Tu lis la Bible, toi. Ça vous est jamais arrivé, ça? Ben oui, ça vous est arrivé. Gloire à Dieu si ça nous est arrivé. Alors, la loi royale est présente dans nos vies. En effet, le commandement, tu ne commettras point l'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ceux qui peuvent encore y avoir, parce qu'il y en a d'autres, se résume dans cette parole, comme le Maître l'a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans Luc 10, un beau texte, venez, Luc 10, 25-37. Un beau texte. Luc 10, 25-37, le temps avance rapidement. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui dis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Hein? C'est facile, ça. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais c'est qui mon prochain? Et là, on connaît la parabole. Hein? Jésus prit la parole. Il dit, un homme descendait de Jérusalem. Puis là, il s'est fait battre. Hein? Et puis là, il était meurtri de coups. Ils l'ont laissé mort là. Et puis là, verset 31, un sacrificateur. Et puis là, pour moi, un sacrificateur, si je veux faire le parallèle avec aujourd'hui, là, on pourrait dire un ouvrier à temps plein, ancien d'une assemblée évangélique. Parce qu'à l'époque, vous savez, hein, le sacrificateur, tu avais Dieu qui parlait aux prophètes, Et le prophète parlait aux hommes, et les hommes allaient voir le sacrificateur, et le sacrificateur intercédait pour eux à Dieu. Alors, ce n'était pas n'importe qui un sacrificateur. Il y avait 12 tribus, puis il y en avait juste la tribu de Lévi qui pouvait être des sacrificateurs. C'était pas n'importe... S'il y en a un qui connaissait Dieu, c'était même un sacrificateur. Hein? Qui non? Qui ne connaît pas Dieu sinon des évangéliques? On a la parole de Dieu dans les mains. Et là, ça continue. Il le laissait là et il l'a regardé dans son sein, etc. Puis, oh, je ne trouve pas ça, je m'en vais. Et là, il arrive un serviteur, un lévite. Et là, je dirais, pour faire le parallèle, le lévite, c'est un chrétien évangélique, là, un vrai chrétien évangélique qui a la parole de Dieu, là, puis qui fréquente les assemblées. On fait le service. Et puis, un lévite, tu ne pouvais pas faire le service. Dans tout le tas d'Israélites qu'il y avait, il fallait que tu viennes de la tribu de Lévi pour pouvoir faire le service dans la tente d'assignation, etc. Imaginez, là, c'était tout un privilège d'être un Lévite et d'être un sacrificateur, puis encore plus un souverain sacrificateur. Et quand on sait tout ce qui s'est passé, c'est incroyable. Et le Lévite, lui aussi, il la regarde, il fait comme son sacrificateur. Il en a peur, il s'en va. Et puis là, on voit hein, qu'un Samaritain, qui était considéré par les Juifs comme du menu frottin. Quelque chose de pas important, puis de, ah, on va aller jeter ça dans la vallée de Jézreel, on va aller brûler ça. Les Samaritains, c'était bon rien que pour ça. Et puis c'est cet homme, le Samaritain, qui agit comme le maître. Et puis là, les paroles, on n'a pas le temps d'aller le voir, mais hein, il a pris deux journées de salaire, il l'a donné à l'autre, il a donné sa monture, il a pincé ses plaies, il a mis de l'huile dessus, il en a pris soin, comme on prendrait soin d'un petit bébé ou d'une personne malade. Lui, le Samaritain. Et puis là, il est parti, puis il dit, quand je vais revenir, si tu as dépensé plus, moi, tu te repayais ça. Et puis là, hein, c'est qui, d'après toi, qui a été le prochain? Et là, il y avait, hein, ben, je pense que c'est le Samaritain. Et quelle est la réponse du maître? Va, toi, et fais de même. C'est ça la loi et les prophètes. Et là, j'ai fait un petit prochain. Ah, ça, c'est moi. Pour ne pas faire comme un sacrificateur et un lévite. C'est qui mon prochain? Alors, moi, je suis ici, et alentour de moi, mon prochain, il est alentour de moi, mon prochain, je n'ai pas besoin de le chercher. Il est toujours alentour de moi, mon prochain. Il peut avoir des œuvres qu'on peut faire à plus grande circonférence, si vous voulez. M'envoyer 20$ en Afrique. OK, mon cercle est ici. Hein? Mais dans ma vie de tous les jours, mon prochain, il est là. Ma femme, mon chum, le voisin. Un frère et soeur de l'Assemblée. Il n'y a pas besoin de regarder loin, là, à l'entour de moi, dans ma vie de tous les jours. Mon prochain, c'est là qu'il est. Et dans tous les contextes, du travail, à l'épicerie, au garage, n'importe où, ton prochain, c'est là qu'il est. Et le Seigneur permet qu'il arrive toutes sortes de contextes pour agir comme le maître envers ton prochain, pour aider une sœur en détresse. Pour aider un petit gars qui pleure, qui vient de se faire battre par d'autres petits gars. Pour aider une personne âgée qui a la difficulté à traverser la rue ou à prendre ses sacs d'épicerie et les mettre dans la valise. Comprenez-vous? Puis encore et encore et encore. Il y a tellement de contextes où est-ce qu'on peut aimer notre prochain comme soi-même. Puis on est là, puis on regarde loin. Bien, moi, il ne m'est rien arrivé depuis des mois. Puis là, regarde, ça arrive, là. Moi, ça fait 10 ans que je n'ai rien fait. Il est loin, mon prochain. Là, j'exagère, mais dans le fond de nous-mêmes, hein, vous savez que j'exagère pas. Hein. C'est triste parfois, un chrétien. Comment est-ce qu'il peut être? Et là, parce qu'on n'a plus de temps, la loi du nombril. Savez-vous, c'est quoi ça, la loi du nombril? On en a tous un nombril. La loi du nombril, c'est qu'on pense à soi-même. Et c'est, on va prendre juste un texte rapidement. Vous allez m'excuser, je vais déborder de 2-3 minutes, OK? 1 Corinthiens 13, on va prendre le dernier, 1 Corinthiens 13 que vous connaissez bien, et on le met au négatif. Vous allez voir, vous allez avoir peur. 1 Corinthiens 13 au négatif. Verset 4. Et là, ce n'est pas l'amour qu'on va lire, c'est le nombril. Verset 4. On met tout au négatif. Le nombril est impatient. Il est plein de mal. Le nombril est envieux. Il n'arrête pas de se vanter. Il s'enfle d'orgueil. Il fait des choses malhonnêtes. Il cherche toujours son intérêt. Il s'irrite. Il soupçonne toujours le mal. Il n'aime pas l'injustice, le nombril. Et puis, il déteste la vérité. Il n'excuse rien. Et il met en doute tout. Il ne veut rien savoir. Puis il ne supporte personne. C'est ça, le nombril. Puis malheureusement, on voit ça dans nos comportements et dans nos attitudes. Va, toi, et fais de même. Aime ton prochain comme toi-même. Accomplit la loi royale. Le Christ, le Maître, nous a libérés du péché. On est capable, on a la puissance en nous pour dire non à nos mauvaises attitudes, non à notre mauvais comportement, non aux mauvais choix, etc. Je suis le premier à savoir que c'est difficile. Mais il ne faut pas baisser les bras. Cette liberté qu'on a reçue de Christ, on est vraiment libre. Cette liberté est pour faire le bien et pour prendre soin de notre prochain qui est rapproché. Notre prochain, il n'est pas loin. Tu peux envoyer de l'argent en Afrique si tu veux. C'est une belle œuvre. Mais ton prochain, il est à l'entour de toi, à moins de 10 mètres. Et le Seigneur, il veut qu'on s'ouvre les yeux. Parce que nos frères et nos sœurs, à l'entour de nous, ils ont des besoins. Puis on est comme des taupes. Ils passent à côté de nous, puis on ne les voit pas. Puis pourtant, ils ont des besoins. Un voisin, ah, c'est notre voisin, on ne fait rien pour lui, c'est un voisin. Etc. Vous comprenez? Ce n'est pas l'enseignement du Maître. On se restreint d'aimer notre prochain à cause de notre nombril. On doit être comme le Maître. Hein, le Père, il dit, je fais pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Je donne de la nourriture aux justes et aux injustes. Soyez donc parfaits. Soyons donc parfaits comme le Père est parfait. Il n'y a pas de plus grand cadeau à faire au Père que lorsqu'il voit ses enfants marcher dans la vérité. Et la vérité, c'est le Maître. Seigneur, on est reconnaissant pour ta parole, on est reconnaissant pour ton esprit. Merci pour cette grande liberté que tu nous as donnée. Seigneur, on est réellement libre et affranchi du péché, de sa puissance, surtout de sa condamnation. Seigneur, on va passer l'éternité avec toi, transformé et glorifié. Merci. Seigneur, dès qu'on va sortir et qu'on va traverser ces portes, touche nos cordes sensibles et que d'ores et déjà, on puisse commencer et continuer à prendre soin de notre prochain qui est si près de nous et qu'on ne voit pas. Tant d'occasions manquées d'avoir été le bon samaritain aujourd'hui, hier, avant-hier. Que ce ne soit pas ça, Seigneur, demain. Touche le cœur de tes enfants. Merci pour ta patience, ta bonté. Et encore une fois, merci de ne pas nous punir et nous châtier selon nos iniquités et nos manquements. Amen.